23h11, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez nous joindre au 3921, n'hésitez pas, car vraiment, vous avez la plus grande chance de pouvoir échanger avec moi ce soir, car nous sommes là, prêts à vous écouter, chers amis. On accueille Alice au 3921. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir, comment allez-vous Alice ?
Merci, merci, je vais bien, merci de m'avoir appelé et d'écouter le témoignage que j'aurais voulu apporter un peu de lumière, hein, parce que j'ai écouté celui d'avant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses incompréhensibles et d'injustices. Et en fait, je fais partie d'un petit cercle également où ouais. Il y a énormément d'injustices et de discrimination et d'intolérance.
Et avant de vous écouter, Alice, car je connais un peu, j'ai eu quelques lignes que Natacha m'a données sur sa fiche vous concernant. On va entendre parler une maman sur un phénomène de société. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Mais qui finalement a sa place aujourd'hui plus que jamais dans cette société qui a évolué, qui a tellement évolué depuis l'avènement même du numérique, mais avec des lois et puis un regard qui n'a pas évolué, lui. Les lois sont restées un peu les mêmes pour tout un tas de choses dans notre société. Elles datent parfois de presque 100 ans, quand ça n'est pas plus. Et on va vous écouter et on va commenter votre témoignage. D'accord, Alice ?
D'accord.
Je vous écoute.
Alors voilà, donc moi je suis une maman. Je voulais témoigner en tant que maman d'une jeune femme extrêmement brillante qui a une dysphorie de genre, c'est-à-dire que c'est une personne transgenre. C'est une personne qui, très petite en fait, s'est rendue compte qu'elle n'était pas dans son corps. Voilà, elle avait un petit corps de garçon alors qu'elle se sentait une petite fille, chose dont elle ne nous avait jamais parlé. Et moi, peut-être, je donne aussi ce témoignage parce que peut-être beaucoup de parents sont comme moi j'étais. J'ai 60 ans, voilà. Et en fait, je n'avais pas entendu, je savais ce qu'étaient des homosexuels, des travestis, mais des transgenres, des personnes transgenres.
Oui.
Bah, j'avoue, je n'en avais pas entendu parler.
Comment en avez-vous entendu parler d'ailleurs ? Est-ce que c'est votre fille qui vous en a parlé ou est-ce que vous...
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout.
D'accord.
En fait, c'est un schéma assez classique. Elle aimait donc les garçons, depuis qu'elle était toute petite, elle était attirée par les garçons, et elle n'aimait pas son corps de petit garçon. Donc quand elle a eu 13 ans, elle nous a dit qu'elle était homosexuelle parce qu'elle pensait qu'elle aimait les garçons, donc elle était homosexuelle, et très vite, elle s'est renseignée, elle toute seule, sur Internet, et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout homosexuelle puisqu'elle détestait son corps, mais qu'elle était une personne transgenre. Et en fait, donc cet accueil de son homosexualité a été très mal pris par son papa, pour des raisons d'éducation, en fait. Moi, je lui avais dit, écoutez, il n'y a pas de problème, à plus homosexuel, hétérosexuel, l'important, c'est que tu sois bien dans ta tête, bien dans ta peau. Je te soutiens sans aucun problème. Et voilà. Et les années ont passé, et un jour, on était toutes les deux devant une émission où on parlait des personnes transgenres. Et moi, j'ai découvert la souffrance et les difficultés des parents, des familles et des personnes qui font leur transformation.
Bien sûr.
Et je lui ai dit, mais comment c'est possible d'être seule, d'être rejetée par sa famille ? Moi, je serai là toujours, toujours pour mes enfants. Et ce jour-là, donc il y a 3 ans, elle a 30 ans aujourd'hui, elle me dit, maman, que si je te disais que je suis transgenre, tu ferais quoi ? Ben, je lui dis, bah, tu fonces. Et tu vis ta vie, tu sors de ta coquille, tu ne peux pas vivre dans cette cage aussi malheureuse. Donc c'est une personne qui avait fait de l'anorexie, de scarification, de la phobie sociale,
oui.
Phobie scolaire, etc. Voilà, malaise que personne n'avait jamais compris en fait. Pourquoi ? Et j'ai découvert, donc je l'ai encouragée. Son père par contre lui a dit non, t'es trop brillante à l'école, c'est une enfant très précoce, termine tes études d'abord. Et elle a dit, mais papa, ça fait des années et des années que je ne suis pas dans mon corps et je dois vivre mon identité. Donc, elle a décidé d'entamer une transformation. Et à ce moment-là, elle a eu une surprise déjà incroyable, celle de la difficulté du parcours, puisque pour avoir droit aux hormones pour se transformer, il faut passer, bien sûr, par un psychiatre.
Oui.
Il y a une base de données de psychiatres, de médecins qui existent en France, mais en fait, il y a les bons et il y a les moins bons, il y a les discriminants et les peu discriminants. Ce que je dis là n'engage que moi et mon expérience personnelle. Je n'accuse personne, mais je suis passée avec elle par des moments incroyablement discriminants.
Pourquoi ? Comme je vous l'évoquais avant que vous preniez la parole, nous sommes dans un système aujourd'hui en France qui est totalement archaïque, qui oui. Même si... Bon, je connais assez bien cette question. Pour tout vous dire, d'accord. Je tournais encore ce week-end, je tourne un film sur les transgenres en ce moment, parce que c'est un... Je n'aime pas le mot phénomène, vous voyez, parce que phénomène, ça fait un peu créature, il y a une sorte de borderline qui est tout de suite évoqué. Non, nous sommes en présence de personnes qui... c'est pareil, la personne avec qui j'étais ce week-end, Emma, qui était qui a 60 ans aujourd'hui et qui pendant 58 ans a vécu comme père de famille, chef d'entreprise, gagnant très très bien sa vie, a entamé une transition il y a 2 ans qui s'est terminée il y a 8 mois à peine et dont la femme a décidé vraiment qu'ils restaient ensemble. Les enfants aussi. J'ai rencontré tout ce monde-là ce week-end. Et il y avait beaucoup d'amour autour d'Emma. Il a fallu beaucoup de compréhension parce que, bien évidemment, comme le papa de votre fille, il faut faire appel. On fait appel à une capacité de pas d'effacer le passé, mais à vous voyez, c'est une notion difficile. On ne peut pas oublier le passé.
Il m'a dit une chose. Voilà. Excusez-moi, je vous interromps. En fait, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il m'a dit : je dois d'abord faire le deuil de mon fils. Et
oui,
moi,
ça,
je n'avais pas compris ça. Parce que je lui ai dit : moi, je ne fais pas de deuil. J'ai un enfant. Le corps, et maintenant, on a des études, les dernières études. Anglophones et au Canada qui sont sortis montrent qu'à l'IRM, on voit en fait que les hormones influent sur le cerveau, oui. Modèlent la plasticité du cerveau et que ces personnes, même transgenres, ont à la fois en naissant un cerveau masculin, également féminin, et il y a même une autre différence en plus. Donc, alors pour moi, qu'on parle de handicap. En fait, c'est un handicap aujourd'hui. Bien sûr, les personnes transgenres, dont ma fille la première, dit « Maman, je suis une personne, j'étais une personne bac plus 5, qui a fait des études brillantes, qui était enseignante, qui était reconnue pour ses qualités d'enseignement, qui parle 6 langues. Et aujourd'hui, l'enfer social, elle n'a plus de travail, elle a failli être éjectée de sa faculté. » Elle a impossibilité d'enseigner, elle a téléphoné au rectorat, on lui a dit atteinte à la pudeur pour des enfants de moins de 18 ans, mais si vraiment vous insistez, vous pourrez travailler dans une ZEP, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit que quelqu'un vous retrouve sur tel ou tel site, vous allez être inondé de méchanceté, c'est à déconseiller complètement. Donc elle, qui est une enseignante extrêmement brillante parce qu'elle a ça dans le sang, elle se retrouve sans métier. Rejet social total.
Bon, déjà, Alice, je vous donnerai le numéro de téléphone de quelqu'un hors antenne que votre fille pourra appeler et qui vraiment sera d'un très grand réconfort, qui elle-même aussi est enseignante, même en faculté à Toulouse. Et qui est depuis maintenant une douzaine d'années et a fini sa transition. D'abord, elle pourra lui parler de tout ça parce qu'il faut d'abord rassurer votre fille et lui dire qu'aujourd'hui, au moins, j'évoquais le numérique avant que votre témoignage, parce qu'aujourd'hui déjà, nous avons des générations, hein, les générations des jeunes aujourd'hui, de 20, des 15-25, on va dire, est totalement ouvert sur la question. Donc, cela veut dire qu'il y a quand même... Le monde bouge, la société avance énormément sur ce domaine et il faut avoir raison.
D'un côté, voilà, d'un côté, la société bouge et d'un autre côté, en l'espace de 3 ans, elle s'est fait agresser 12 fois à Paris.
Ouais, ouais.
Mais quand je dis agression extrêmement violente, alors qu'elle est très, très, très mignonne. Enfin, elle a subi l'année dernière 7 opérations de chirurgie lourde, parce que en fait, elle veut être indétectable. C'est pas pour la beauté d'être une femme magnifique, c'est pour ne pas qu'on puisse la détecter. Parce que sinon, il y a des agressions. Et aujourd'hui, enfin, elle me disait encore ce soir, parce que je lui ai demandé la permission de témoigner, elle me disait qu'elle s'est fait insulter, elle habite dans le 92, alors qu'elle voyait pas, mais comment est-ce qu'ils ont pu voir que j'étais une personne transgenre, habillée avec une casquette, un t-shirt et une paire de baskets, de jeans.
Oui.
Elle a donné des cours en ligne. Vous voyez, elle donnait des cours en ligne pour dire, parce qu'elle est extrêmement féminine, et la maman de la personne à qui elle a donné des cours en ligne lui a dit cette semaine, puisqu'elle essaye de se raccrocher au monde pour retravailler après son année de chirurgie, lui a dit, vous avez une voix un petit peu masculine, qu'est-ce qui se passe? Elle lui a dit, bah, écoutez, j'ai BAC+5, je suis une personne transgenre. Oui, bah, pour mon enfant, ça n'ira pas.
Ouais,
donc, en fait, elle lui dit, maman, quoi que je fasse dans mes papiers qui ne sont pas encore finalisés, j'ai le 1 masculin, alors qu'il y a Eva avec son nom sur sa carte d'identité.
Oui.
Le 1 fait que les entreprises disent, bah, non, finalement, on a des risques. Et elle a des amis qui travaillent aujourd'hui, comme elle, et à part 2 personnes sur l'île de France, qu'elle connaît le petit monde, hein, c'est un petit peu, on se connaissent tous, qui les autres subissent une transphobie au travail, une transphobie à l'embauche.
Non, mais il y a une transphobie générale.
Elle ne savait pas que ça allait être si dur,
si,
en fait.
C'est assez terrible. On est dans une société transforme, mais on est dans une société extrêmement homophobe aussi, vous savez.
Homophobe et transphobe.
Aujourd'hui, le Marais, le quartier du Marais à Paris, est devenu vraiment un véritable...
Dangereux.
Oui, très dangereux, parce que toute la région parisienne vient casser tous les voyous et tous les gens qui...
Oui.
Vous savez, parce qu'il y a aussi une attitude un peu curieuse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont troublés par... ces histoires-là. Et,
voilà. Bah, fait, ce qui se passe, c'est que ça déclenche, chez ma fille, et puis chez ses amis, ça déclenche une agoraphobie, ça déclenche la peur de se confronter au monde. Elle a des amis qui ne sortent plus du tout de chez elle. Elle, comme sa transformation s'est très bien passée physiquement, elle sort, et puis elle a un caractère assez fort, mais elle n'ose plus aller dans une entreprise pour essayer d'être embauchée. Elle n'ose plus travailler. Elle est quand même, elle vit extrêmement recluse et elle me dit, maman, je ne pourrai plus jamais rentrer dans le cercle normal de la société. Exclue totalement.
Non. Bon, il faut, vous savez, il faut de toute façon qu'elle se rapproche aussi de certaines personnes. Je suppose que, comme vous me dites, qu'elle a fréquenté aussi d'autres personnes comme elle. Elle s'est sans doute rapprochée de l'association LGBT de Paris.
Alors, elle connaît les associations. Ils ont beaucoup à faire. Avec le corona, c'était très difficile. Mais ils sont démunis. Ils sont aussi démunis. Il faut dire la réalité aussi. Hein. En fait, dans la région parisienne, je ne connais pas la province, mais dans la région parisienne, il y a énormément de personnes trans, genre, qui sont prostituées au Bois de Boulogne, escortes, et qui vivent parce que les opérations de chirurgie esthétique sont extrêmement chères, parce qu'il y a encore des séances laser pour enlever la pilosité qui sont extrêmement chères, et notamment en province, et que la Sécurité sociale ne prend en charge que les opérations de chirurgie du visage.
Elle prend aussi d'autres opérations. Hein. La seule chose qui est bien en France concernant tout le parcours de transition, c'est que lorsque ces fameux psychiatres dont vous parliez tout à l'heure, ont enfin siégé et enfin compris à qui elles avaient affaire, à qui ils avaient affaire, pardonnez-moi. Décision est prise et donc les opérations, à partir de ce moment-là, sont remboursées comme n'importe quelle opération, y compris le changement de sexe. Donc ça, c'est remboursé, mais il y a un long, il y a un long chemin et des rendez-vous souvent très éprouvants en fait, parce que.
Alors l'année dernière, pour vous dire, hein, l'année dernière.
Je vous interromps. Vous allez continuer à me parler de tout ça, Alice. On marque une légère pause si vous le voulez bien, et puis on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.
D'accord. Merci.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Il est 23h28, vous êtes sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, comme Caroline qui adresse à Alice un joli message et qui la félicite pour son amour et son intelligence. Elle vous dit, Alice, vous êtes un modèle de mère et de courage pour votre fille Eva, qui aura la chance de faire de belles rencontres inclusives. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'évoquais avec vous, Alice, l'ouverture d'esprit de ces jeunes générations très préoccupées par le bien-être hein, de l'autre, qui admet la différence de l'autre à tout point de vue, que ce soit une différence de peau, une différence de sexualité. Et c'est bien qu'Internet, hein, le numérique, ait amené ce côté lumineux de l'être humain, parce qu'il y a vraiment de l'espoir de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'Eva rencontre les bonnes personnes qui d'abord vont la rassurer et surtout bien la diriger. Parce que j'ai vu dans ce que vous avez raconté à Natacha que Eva avait beaucoup fréquenté de personnes transgenres qui finalement s'étaient retournées vers la prostitution, vers la drogue et l'alcool.
Ouais. Ah ben oui,
sachez quand même que voilà, je ne peux pas non plus laisser imaginer à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir que toutes les personnes transgenres à un moment sont confrontées à ça. Bien évidemment qu'une partie l'est, mais
oui. Sur la région parisienne, il y a une grande partie qui l'est. Il faut savoir aussi que tout dépend si la famille est là ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont abandonnées de leur famille.
C'est
moi, j'en ai reçu chez moi. Des majeurs.
Mais oui, non, mais
oui,
ce qui est,
j'en ai
c'est,
reçu.
C'est ce que je vous disais, c'est élémentaire, c'est central, c'est majeur.
Oui.
Si la famille accompagne son enfant, le chemin sera radicalement différent.
Exactement, exactement.
Et bon nombre de familles n'accompagnent pas leurs enfants, malheureusement.
Pas du tout. Ils sont à la rue. Ils sont à la rue, sans boulot, sans rien. Et quand il n'y a pas de travail et qu'il n'y a pas d'endroit où loger, eh ben, en fait, c'est le chemin, voilà, c'est la prostitution.
Et puis c'est surtout on peut l'évoquer, Alice.
La descente.
C'est surtout l'impossibilité, parce qu'on n'a pas d'argent, l'impossibilité de pouvoir se projeter dans une transition. Parce que vous évoquiez tout à l'heure cette image aussi qui était assez discutée ce week-end avec les personnes que je tournais. Ne pas être née dans le bon corps. Et elle n'était pas totalement raccord avec cette image. Elle disait plutôt « Non, mon corps, c'est le mien, mais voilà, ce corps-là avait besoin de transformation. Il ne me plaisait pas comme il était, en fait. Et j'ai eu besoin d'y apporter... »
C'est ça, c'est vrai.
Voilà. Et c'est pour ça qu'elle n'aime pas non plus, les personnes trans n'aiment pas le mot « transformation », mais plutôt « transition ». En fait.
Oui.
Parce qu'il y a une notion de respect de ce corps, hein, qui est le corps, c'est notre petit, notre petite église, hein, notre petit monument à nous. Il faut y faire attention, quoi, à ce corps. Et donc, même si on doit le modifier, hein, quand on se sent pas, quand on passe devant la glace, par exemple, c'est souvent une image qu'elles empruntent en disant, mais quand je passe devant la glace et que je vois mon sexe. C'est pas moi, ça me fait peur, ça me met très mal à l'aise, et je suppose qu'Eva vous a raconté
pareil,
tout ça.
Oui, mais moi je lui dis, mais tu as une chance incroyable, alors c'est paradoxal, hein, parce que je vois toute la souffrance et le soutien qu'il faut lui apporter, mais je me dis, tu te rends compte, tu as vécu dans un corps d'homme avec une sensibilité masculine, parce que les hormones transforment les sensibilités, transforme la façon de voir le monde. Le cerveau est complètement plastifié, plastique. On voit bien qu'il se transforme. Maintenant, elle voit le monde différemment, elle ressent les choses différemment. Et qui a eu la chance dans une vie de vivre un corps d'homme et un corps de femme? Et des fois, on en riait parce qu'on disait, elle me disait, mais maman, si j'avais su que les femmes avaient moins de salaire, que les femmes avaient moins d'avantages, mais je ne me serais peut-être jamais transformée. Je dis, mais tu vois, mais quelle richesse en fait qu'on peut tirer de ces personnes qui ont cette vision des deux. C'est tellement incroyable.
Oui, oui.
La transformation d'un corps, les pieds ont raccourci de deux pointures, la peau est devenue tellement fine. Il y a tellement de choses qui diffèrent. Et la façon de voir les choses, la façon de voir la vie, l'approche des enfants a été complètement transformée pour elle. Et je me dis, mais si tu écris tout ce que tu vois, tout ce qui est différent, tu as vécu deux vies. Tu as vécu ce que la majorité des personnes ne vivront jamais.
C'est un chemin.
C'est un chemin
très, très incroyable, vous avez raison, et très riche.
Oui, et pour les parents, c'est riche.
Ça peut l'être. Je ne sais pas si vous avez entendu jeudi dernier la grand-mère d'une
jeune... J'ai vu que vous l'aviez fait, mais comme je suis en plein déménagement, en fait, je n'avais pas du tout ni Internet, ni radio, ni
D'accord.
rien.
D'accord. Bah, vous écouterez aussi, c'était mercredi soir, le témoignage de Suzanne, une grand-mère habitant au fin fond de la Bretagne, et qui nous expliquait la transition de sa petite-fille. C'était très émouvant et très intelligent en même temps, et empreint d'un grand amour de la grand-mère qui aime sans compter cet enfant qui est devenu grande maintenant et qui a entamé cette transition et qui, elle, supporte parce qu'elle nous disait que les parents avaient beaucoup de mal, en fait. Revenons-en à votre mari, le papa d'Eva.
Très difficile.
C'est très difficile.
Oui, c'est difficile. Et puis, en plus, j'ai fait une erreur en tant que maman, ça j'admets. Je suis passée à quelque chose d'important. En fait, j'avais Eva a un frère qui a 10 ans de moins, donc ado, donc pas du tout dans la crise d'adolescent, mais par rapport à ses copains, par rapport, ça a été très difficile pour lui. Et de ce fait, Eva s'est retirée. Elle a vécu dans un appartement où elle a beaucoup souffert, en fait. Et au départ de son frère qui est parti vivre à l'étranger, elle est revenue avec moi pour se reconstruire pendant 2 années. Voilà.
Parce que je n'ai pas très bien saisi, à l'annonce de cette transition, en fait, elle a été obligée de quitter le domicile familial ?
Elle vivait déjà, elle était prof, elle était complètement indépendante, elle était déjà, elle est partie à 18 ans vivre en Italie, elle vivait dans des pays étrangers, après elle a enseigné en France, elle était complètement autonome. Mmh. Et au moment de la transition, donc elle avait un appartement, donc... Elle a très bien compris que pour son frère, c'était extrêmement difficile, pas par rapport à elle, mais par rapport à ses amis. Voilà. Il n'a pas été capable, en fait, assez fort, ses amis adolescents, 16 ans, 17 ans, pour lui, c'était difficile. Il avait déjà annoncé qu'il avait un frère qui était homosexuel, c'était très bien passé. Après, annoncer que son frère devient une sœur, ça a été impossible. Il a fui sa sœur, il ne l'a pas du tout aidée. Et son père, pas du tout non plus, disons que non, elle n'a pas eu du tout de soutien de son père, pas du tout.
Vous êtes en province, donc, en fait ?
En fait, moi j'habitais la région parisienne et je suis en province depuis quelques semaines.
D'accord, et le papa et votre fils, en fait
Le papa est parti à l'étranger et son frère, Aïva, l'a rejoint après son baccalauréat à l'étranger.
D'accord.
Et je crois qu'il y a eu deux fuites, en fait. Deux fuites aussi de ce qui se passait. C'était trop dur, voilà. Mm-hmm. C'était trop dur à assumer.
Comment vous l'analysez, vous, ça c'était trop dur, c'est-à-dire, en fait, parce que...
Moi, déjà, j'ai fait une erreur magistrale, je pense. J'aurais dû aller voir un psychologue et faire une thérapie de couple familiale, au moins.
D'accord.
J'aurais dû... absolument, le frère et la sœur, les mettre tous les deux, qu'ils parlent, qu'ils s'expliquent.
Mais devant quelqu'un d'autre.
Je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, elle vivait dans un appartement. Lui était beaucoup plus jeune, il avait 16 ans. C'était compliqué déjà. Son papa était déjà parti à l'étranger. Donc, il y a eu quand même des ruptures difficiles pour lui.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais.
Voilà. Moi, je vivais avec mon fils en couple, en vase clos, en fait. On s'entend merveilleusement bien. Et puis donc, sa sœur vivait dans un appartement dans la région parisienne qui s'est très très mal passé, l'appartement. Elle a été agressée plusieurs fois. Donc, un jour, son frère m'a dit « Mais maman, tu fais quoi là? T'attends quoi pour la ramener à la maison ?» Et j'ai pris une claque, parce que je ne voulais pas qu'il... Je comprenais l'attitude de mon fils avec les difficultés relationnelles avec ses copains, au moment du bac, tout ça. Je ne savais pas quoi faire pour qu'il soit bien lui. Et puis, en même temps, je n'avais pas compris à quel point ma fille souffrait. Elle ne me disait pas tout non plus. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des médicaments comme l'androcur, qui sont des médicaments interdits aux États-Unis depuis 10 ans, qui provoquent des suicides, qui provoquent de l'anxiété, lobotisent le cerveau complètement. Et un jour, son frère m'a dit « Mais maman, tu la ramènes à la maison, c'est pas possible de la laisser là-bas », et il m'en voulait terriblement.
Preuve en est que, vous voyez, même si c'était trop dur pour lui, il a beaucoup de sentiments pour sa sœur.
Oui, oh ben je suis sûre, hein. Et 24 heures après, on est allés tous les deux la chercher, on l'a amenée à la maison. Voilà. 24 heures après, je me suis dit, mais franchement, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Mais on n'est pas toujours dans la bonne réflexion, parce qu'on protège les uns, on protège les autres, on comprend les uns, on comprend les autres, et on n'ose pas peut-être affronter ensemble. J'aurais dû faire une thérapie.
Si j'ai
aux auditeurs, c'est surtout de ne pas faire ce que j'ai fait. Quoi.
Dans le film que je tourne en ce moment, j'ai rencontré un garçon transgenre, donc de 20 ans. Sa transition était terminée depuis 2 ans, donc ça s'est passé assez jeune, parce que les parents, dans la région de Colmar, au fin fond de l'Alsace, n'avaient jamais entendu parler de la transsexualité. Et comme vous, en fait, et c'est là où on voit que le rôle des médias dans cette question de la transsexualité a un rôle majeur à jouer, car plusieurs fois j'ai entendu des parents dire que le coming out s'était passé comme vous me l'avez raconté. On était devant l'émission de l'après-midi de Delarue, avant de Jean-Luc Delarue, ou la nouvelle émission de l'après-midi de témoignages, ou sur un reportage ou un documentaire. Et c'était l'occasion pour l'enfant de dire « Qu'est-ce que t'en penses de ça ?» Je sais, ou alors de carrément poser des mots sur l'angoisse et le malaise qu'il ressentait. Parce qu'il y a aussi cela, et peut-être vous allez me le dire, Eva... vous me l'avez dit tout à l'heure, mais Eva est restée longtemps sans savoir ce qu'elle avait vraiment.
Complètement. En plus, ça je ne l'ai pas encore dit, mais c'est une enfant qui est autiste Asperger. Donc c'est une enfant à très haut potentiel, mais vraiment très très haut potentiel. Elle a travaillé avec le CNRS à 13 ans contre le sida. Donc c'est vraiment une personne hors norme, mais en même temps avec un gros problème de communication. Donc, on avait mis ça plutôt sur la précocité. On avait après mis ça sur l'homosexualité. On a vu, je ne sais pas combien, de psy, de psychiatres, suite au fait qu'elle avait arrêté l'école pendant 1 an et demi. On faisait tout pour aller voir des gens qui nous aident, mais jamais personne nous a orientés vers cela. Et elle, comme elle n'osait pas en parler, c'était totalement... Inimaginable pour moi, inimaginable. Je ne savais pas. En fait, je ne savais pas. Et mon père, qui a 92 ans, donc ça, c'est plutôt une anecdote, mais ça fait rire et ça fait du bien quand même.
Oui.
Et ma mère, qui a 87 ans, quand je leur ai parlé que Eva était une jeune femme, mon père m'a dit « Mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé plus tôt? Il n'y a pas de problème. Je connais bien. » Et je lui ai dit « Mais comment ça, tu connais bien ?» Plus belle la vie. Alors, il paraît qu'il y a un feuilleton qui s'appelle Plus belle la vie en France.
Oui.
Moi, j'ai pas
tous
la
les
télé.
Soirs sur France 3. Depuis au moins 15 ans. Ouais.
Ah bon ? Ben, mes parents regardent Plus belle la vie. Et Plus belle la vie, il y avait une personne transgenre.
Mais
donc,
oui.
Mes parents de 92 et 87
Merci,
ans.
Merci, Plus belle la vie.
Mais oui.
Mais
ont
oui.
accueilli la transformation de ma fille, mais d'une manière incroyablement facile. Mm-hmm. Et ils l'adorent. Et ils disent, mais elle est tellement belle, elle est tellement gentille, elle est... Ils n'ont fait aucune différence.
Mais vous savez, Alice, merci Plus belle la vie. Et quand je cite Jean-Luc Delarue, quand je cite Faustine Bollaert l'après-midi, ces émissions qui sont regardées en plus essentiellement par une catégorie de personnes qui sont pas mal à la maison et qui ont qui n'ont jamais entendu parler de ça. Et quand ils tombent sur ces témoignages avec quelqu'un pour lequel ils ont le plus grand respect, de la confiance, parce que ils sont habitués à regarder cette émission et ils la trouvent de qualité, et bien d'un seul coup, il y a l'oreille se tend et on écoute. Et quand on comprend juste simplement que ces enfants sont nés dans un corps d'homme ou de femme, mais que le sexe, la représentation du sexe qu'ils ont dans la tête et toute leur sensibilité est à l'inverse du sexe naturel qu'ils ont.
Oui, c'est... exactement. Et on confond souvent transgenre avec sexualité. Alors, il n'y a pas forcément de sexualité. Les hormones que prennent les personnes pour leur transformation, déjà, arrêtent la libido. Pendant des années, ils n'ont plus aucune libido. Il n'y a même pas de sexualité. On ne parle pas de ça, on parle d'identité.
Vous avez bien raison de le dire et de le redire, ça n'a rien à voir avec la sexualité.
Rien du tout.
Au même titre,
l'identité.
Au même titre que pas mal de personnes homophobes pensent que l'homosexualité est un travers, que c'est presque une maladie ou je ne sais quoi. À partir du moment où d'un seul coup, on entend des mots simples d'un homme de 40 ans, avec à côté de lui son compagnon de 32 ans qui dit « Moi, la première fois que j'ai eu une émotion sexuelle, en tout cas une émotion d'amour, et puis un truc qui se passait dans mon corps, dans mon ventre, eh bien c'est pour un garçon que je l'ai eu. Et ça m'a toujours fait ça. Comment aller s'opposer à ça ? Comment c'est ne ça. Pas comprendre cet homme qui est devant nous et qui nous dit quelque chose de simple en disant, bah toi, là où tu as cette émotion-là quand tu regardes une jolie femme ou une femme, eh bien moi j'ai la même quand je regarde un homme, parce que je suis née comme ça.
C'est ça. En fait, souvent, Eva me dit, maman, j'ai tellement subi de chirurgie, j'ai tellement souffert, j'ai presque perdu les facultés mentales, j'ai presque été exclue de ma faculté, on m'a interdit d'enseigner. Et maintenant, est-ce que je ferais ça par choix, uniquement parce qu'un matin je me serais levée en me disant tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être dans un corps de femme.
Il faut que Eva.
Mais c'est tellement.
Il faut qu'Eva bouge. Il faut qu'Eva bouge. Il ne faut pas qu'elle s'acharne là où elle est en ce moment. Parce que je peux vous dire qu'elle est tombée sur sans doute des gens très malveillants. Parce que aujourd'hui, bon nombre de personnes transgenres en France, aujourd'hui, exercent leur métier à la poste, dans les banques. Dans l'éducation nationale aussi, donc il ne faut pas, enfin voilà, il faut qu'elle tombe sur les bonnes personnes qui vont lui expliquer.
Elle n'est pas tombée sur les bonnes personnes. Les personnes qu'elle a rencontrées, des personnes qui lui ont dit qu'elle allait l'aider, elle est allée sur un site qui s'appelle Wanted. Elle a des cercles à Paris quand même de gens très haut placés à Paris. Et systématiquement, c'est OK, on t'aide pour un travail, OK, on veut bien, mais d'abord, il faut passer par le lit. C'est systématique, c'est automatique, c'est systématique. Elle me dit, je n'en peux plus, je ne demande plus rien, parce que c'est à chaque fois la condition sine qua non pour avoir un travail.
On va marquer encore une pause, si vous le voulez bien, Alice, et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
D'accord, merci.
À tout de suite. – 23h49, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Alice, j'ai plusieurs messages pour vous de la part de Théo qui vous dit qu'il il faut continuer bien évidemment, mais je pense qu'en vous écoutant, on ne doute pas une seule seconde de cela, il faut continuer à accompagner Eva. Et puis Colombe vous adresse un message au 739-21. Elle me dit qu'elle sait par une infirmière qui travaille dans ce service que l'hôpital Tenon a ouvert une unité spéciale très compétente, évidemment, mais aussi très humaine et attentionnée pour ces personnes qui désirent avancer dans leur transition. Et puis, Olivier souhaite vous adresser un gros message de soutien, ainsi qu'à Eva. Il dit que malheureusement, ce sujet reste bien trop incompris aujourd'hui. Espérons que ça bouge. Merci à vous tous pour vos messages.
Merci.
Pour Alice au 739-21. On évoquait donc le papa, le frère. Eva, c'est quelque chose aujourd'hui elle est passée à autre chose par rapport à ça, ou c'est quelque chose qui lui pèse encore, le fait que son père et son frère soient absents de ce chemin-là?
Je pense que pour son père, ça fait longtemps qu'il est parti et puis elle se fait une raison. Pour son frère, c'est beaucoup plus dur. C'est dur, c'est très dur en fait. Lui, il vit sa vie, bon, il habite très loin, il est jeune, hein, il a 19 ans, bientôt 20, mais en fait, il a besoin de se construire aussi après toutes ces épreuves, hein, parce que là, pour les familles, c'est quand même, c'est quand même une épreuve, hein, il faut accepter, il faut comprendre.
Évoquons cette phase-là aussi de l'histoire d'Eva et l'histoire donc de votre famille. Parce que c'est important aussi de l'évoquer. Comment fait-on face à ce tsunami, hein, parce que c'est un tsunami lorsque un enfant annonce ça. C'est un tsunami pour beaucoup de familles. Alors, il y a beaucoup d'amour de votre côté. Je pense qu'il y en avait beaucoup du côté du père et du frère d'Eva. Mais il y a cette incapacité à
accepter. Oui, on n'est pas du tout sur la même longueur.
Ouais.
Oui. C'est comme quand on parle d'enfants handicapés ou de familles qui perdent, qui ont un deuil d'enfants, par exemple. Tout le monde ne le vit pas de la même façon. Je crois que c'est très, très dur pour son père, très dur. Je crois qu'il a perdu le fils qu'il avait adoré. Et puis, c'est aussi par rapport à son histoire, son éducation, ça a été compliqué. Et pour son frère, je pense qu'il y a eu aussi quand même un peu d'influence du père, hein, qui était négatif. Et maintenant, c'est un enfant très sensible, son frère extrêmement sensible, qui dit peu de choses, mais qui a beaucoup d'amour pour sa sœur, mais qui ne sait pas le montrer. Voilà. Et la distance fait qu'en fait, quand on vit à des milliers de kilomètres les uns des autres, il y a une forme de fuite. Donc moi, j'essaie toujours que la famille soit très unie, parce que pour moi, c'est sacré. Mais j'avoue que c'est compliqué. C'est très compliqué. Et puis aussi, il y a dans la famille, même en plus du frère et de la sœur, je vois les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Les questions sont souvent dérangeantes, en fait. Ça, les gens ne se rendent pas compte, mais... les questions sont souvent par rapport est-ce que tu te fais opérer, comment ça se passe avec un copain. En fait, c'est très sexuel. C'est très orienté, appareil génital, sexualité. La curiosité, sans être méchante, est très dérangeante pour les personnes transgenres.
Incroyable, en fait, c'est que toutes ces personnes qui posent ces questions un peu à côté de la plaque, si on leur faisait la même chose,
c'est ça.
C'est-à-dire que si on les définissait, en fait,
oui,
que juste parfait, dans ce qu'elles ont dans la culotte,
ouais,
elles s'offusqueraient aussi énormément.
C'est exactement ça. Mm-hmm. Mais c'est exactement ça. Et pourtant, ça tourne autour de ça. Comme si la personne était réduite à ça.
Parce qu'il faut encore que les gens évoluent.
Mm-hmm. Voilà.
Parce qu'il faut encore évoluer sur cette question et comprendre. Et c'est ce pourquoi j'évoquais avec des mots simples. Parce que c'est en expliquant avec des mots simples, sans aller chercher mille théories. On est comme ça. Et cela peut être un enfer aussi bien pour celui qui cache toute sa vie qu'il est homosexuel et qui va... Combien d'hommes on a vu se marier, faire des enfants et puis au bout d'un moment partir et faire tout exploser parce qu'il n'en pouvait plus. Combien de personnes transgenres ont souffert un martyr?
Et les personnes transgenres restent... Il y a des personnes transgenres qui restent cloîtrées chez elles,
ouais,
parce que Tara, elle a eu la chance d'avoir des origines aussi indiennes. Donc, en fait, le mélange fait que la transformation est magnifique. C'est une très jolie femme. Et donc, elle a de la chance de pouvoir sortir et d'être jolie. Mais elle a des amis pour qui c'est beaucoup plus difficile, notamment quand on fait une transition, quand on est plus âgé, les récepteurs, c'est beaucoup plus difficile.
Beaucoup
et
plus.
Les personnes restent chez elles enfermées de peur de l'agression. Et la première année où je suis, où moi, on est allé en vacances 48 heures en Bretagne, toutes les deux, pour se faire un week-end pour souffler. Donc ça faisait quelques mois où elle prenait ses hormones.
Oui.
Mais j'ai cru qu'on allait se faire tuer à Royan. Bon, je donne la ville. Hein. On est à Royan, dans une très grande brasserie au bord de la mer. On était dévisagés. Mais j'étais mal à l'aise. C'était comme si on était toute nue. C'était horrible. Parce que comme elle avait encore un visage un peu masculin et puis des vêtements féminins, mais il valait mieux en rire, quoi. Ça faisait peur. Ça faisait peur.
Oui.
Et on devait rester 48 heures, on est resté 24 heures, j'en pouvais plus. Je me dis, mais si elle vit ça tous les jours, mais je ne sortirai pas, moi. Je ne sortirai plus. C'est trop flippant. Ça fait peur. C'est comme si les gens... montrer du doigt voilà, les personnes handicapées, mais il y avait tout le restaurant. C'était horrible. On a vécu ça, je n'en revenais pas. Après, bon, ça s'est atténué au fur et à mesure des chirurgies, au fur et à mesure, on apprend à se maquiller, on apprend à cacher la pilosité, on apprend. Mais au début, il faut le vivre avec sa fille pour comprendre à quel point pour ces personnes c'est difficile en début de transition. C'est très dur, c'est très très dur. Alors, les émissions qu'on voit à la télévision, moi j'en ai vu, c'est toujours très sympathique et c'est très réussi. C'est des choses optimistes, c'est des choses de compréhension et ça peut vous arriver. Ça peut arriver aux gens que vous connaissez, c'est vraiment, c'est des notes positives.
Bah, il faut que ça commence par là, au moins.
Voilà,
les émissions, c'est un début, vous voyez.
Voilà.
Dans les documentaires, déjà, on rentre un peu plus dans la profondeur des destins, et ce n'est pas toujours des destins évidents.
Difficile. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, mon témoignage, ça a été très dur. Hein, je veux dire, ça a été très, très dur. Le monde que je fréquente, je vais essayer d'aider aussi une autre association LGBT, là où j'habite maintenant. Et bon, j'ai vu des oiseaux blessés, mais des amis à elle qui ont été assassinés. Des amis qui ont été frappés comme elle. Je veux dire, c'est quand même... Le monde est violent. La France est violente. C'est pas bisounours du tout. Hein.
Encore une fois, tant que les lois continueront de protéger ceux qui pensent que leur liberté à eux, c'est de frapper, d'humilier, de tuer, même de blesser des gens qui sont différents d'eux. Et encore une fois, je parle pour la peau, pour le sexe, pour la nationalité. Tant que la loi ne punira pas fermement tout ça, on continuera à avoir des abrutis qui se croient tout permis. Vous restez en ligne, si vous le voulez bien, Alice. On conclura après l'information sur Europe 1 qui arrive à grands pas. À tout de suite.
D'accord, merci.
Europe 1, écoutez le monde changer. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21 ou nous envoyer vos messages au 739-21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme Brigitte nous le fait ce soir, comme elle le fait régulièrement, pour nous envoyer de beaux mots, pour encourager toutes celles et ceux qui témoignent sur cette antenne et au passage nous envoyer aussi ces mots pour nous aussi, pour l'équipe. Donc merci à vous Brigitte. Nous sommes avec Alice, maman d'une jeune femme, Eva, qui est transgenre. Eva a 25 ans aujourd'hui. Elle a quel âge en fait, Alice? Elle a 30 ans, d'accord.
Voilà, et elle est... En fait, elle a presque 10 ans d'enseignement, de prof d'enseignement en fait. Et Elle était professeure de philosophie, d'anglais, d'italien, de physique, de grec, de latin, d'arabe. Elle fait aussi, elle parle couramment arabe, l'arabe littéraire. Et je voudrais dire aussi, ben ça c'est intéressant, c'est quand elle a commencé sa transition, elle faisait partie d'un institut d'arabe, institut, faculté arabe. Et la première chose qu'elle a été reçue par le directeur qui a dit, le premier sourate du Coran, c'est « Je ne juge pas, on ne juge pas, seul Allah peut juger ». Et elle a été accueillie avec une bienveillance dans cette faculté arabe, professeur émérite, cet accueil en fait l'a beaucoup touchée. Parce que Eva, elle est passionnée par toutes les religions, elle est prof de méditation également, donc elle étudie tous les livres du docteur John Kabat-Zinn, de Krishnamurti, voilà, elle est excellente en méditation, elle est prof depuis longtemps. Et donc, en fait, cette approche, voilà, qui n'a pas été sectaire, elle est passionnée d'arabe littéraire, et elle disait, en fait, voilà, des gens intelligents, des gens tolérants, il y en a dans la France, il y en a partout. Et en même temps, il y a tellement d'intolérance et de violence. Ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire de catégorie de personnes, en fait.
C'est une histoire d'éducation, d'humanité.
Voilà.
Valérie, d'ailleurs, au 739-21, nous envoie un très beau SMS. Elle dit « Notre espèce est violente et cruelle ». Et arrogante. Pourtant, en nous redressant, nous nous sommes mis dans la verticalité, pieds sur terre et tête dans le ciel. Or, nous nous en servons peu et très lentement, je dirais trop lentement même. Mais les choses sont amenées à bouger, parce que j'ai quand même le sentiment que ces voix, les voix de ces personnes transsexuelles, on les entend de plus en plus. Et nous, médias, nous avons un rôle majeur à jouer pour les mettre en lumière en lumière...
Qui est plus de tolérance, en fait.
Oui, oui.
Qui est plus de tolérance et qui est moins de violence, de crimes, de... Voilà, aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 personnes transgenres en France, mais il y a beaucoup, beaucoup de... C'est dommage, quoi, qu'il n'y ait pas plus de tolérance. Et ça commence par les familles. Moi, je crie, enfin, surtout... voilà, les familles, mais ouvrez les yeux sur la richesse incroyable des enfants, de vos enfants, et sans donner de morale, hein, bien évidemment, hein, c'est pas du tout ce que je veux faire, mais il y a trop d'enfants qui sont rejetés, tout ça parce qu'ils sont différents, alors qu'ils aiment tellement leurs parents et que c'est tellement dur d'arriver à une transformation. Réussi au niveau physique, social, les chirurgies, les médicaments, tout ça, il y a des effets secondaires. Et il faut être soutenu tout le temps, jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à ce que l'enfant soit épanoui, heureux, qu'il ait trouvé sa voie, son métier, et puis que tout le monde s'y mette, quoi. Parce que d'avoir autant de personnes... dans les foyers ou à la rue ou dans le bois de Boulogne, ou c'est affreux, c'est vraiment voilà,
parce qu'il faut il faut énormément de courage aussi à ces enfants, et ils en font preuve pour entamer ces transitions. Vraiment beaucoup de courage. Ouais. Merci mille fois en tout cas, Alice, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Transmettez nos amitiés, notre soutien sans faille à Eva, et puis vous restez en ligne. Natacha va vous transmettre un numéro que je lui ai fait passer, et Eva pourra appeler cette personne de ma part. D'accord,
merci beaucoup.
Merci Alice, bonne
merci
nuit.
Beaucoup,
au revoir,
bonne nuit à vous. Merci.
Vous aussi venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21 50 centimes la minute.